Bonjour, c'est très bien que la question est portée sur l'Europe. Enfin, la dernière question, on est parlé d'une dimension européenne. Parce que je vais faire un petit tour par l'Europe pour vous parler de la certification professionnelle. On parle compétences, tout est compétence maintenant. Et quelquefois, c'est pas plus mal de passer par des langues étrangères pour essayer de lever les ambiguïtés de notre propre langue. Toute l'approche compétence qui vous a été décrite et dont on parlera aussi ultérieurement dans la matinée, c'est quelque chose qui en anglais s'appelle skills. Et le programme dont s'inspire très largement la loi est un programme qui en anglais s'appelle Skills Agenda. Voilà, pour vous dire que nous, la CNCP, enfin la future commission de France Compétences, on est sur une autre définition de compétence qui est competencies. Ça a l'air un petit peu abscon ce que je vous dis, mais en réalité, ça recouvre des concepts qui ne sont pas tout à fait les mêmes. Quand on va parler de skills, il y a aussi un autre programme, je fais exprès de l'appeler en anglais, puis en plus j'ai oublié la traduction française, qui est Upskilling Pathways. Ça veut dire qu'on donne davantage de compétences au parcours. On parle d'éléments qui sont des éléments qui, pour nous, Commission de la certification professionnelle, dans le cadre de notre travail de certification professionnelle, ne sont qu'un des éléments. Je ne sais pas si vous savez ce que la commission nationale de certification professionnelle porte le répertoire national de la certification professionnelle. Bon, ça tout le monde le sait. Ce qu'on sait peut-être un petit peu moins, c'est qu'à l'étranger, il représente le cadre français des certifications. Alors maintenant, on va dire des qualifications. Ça qui veut dire aussi qu'on est calé sur une recommandation européenne qui s'appelle, traduction en français, le cadre européen des certifications et de la formation tout au long de la vie, et que ce cadre européen, il est défini, des niveaux qui sont des niveaux qui sont reconnus par les États membres et de plus en plus à l'extérieur de l'Union européenne, reconnus parce qu'ils sont décrits aussi avec ce qu'on appelle des descripteurs de niveau. Et dans ces descripteurs de niveau, il y en a trois. Chaque niveau est défini par des savoirs, des savoir-faire, qu'on traduit par skills, et par de l'autonomie. Et le champ de la certification professionnelle, le travail de la certification professionnelle, le fait d'enregistrer au RNCP ou de recenser à l'inventaire, demain d'enregistrer dans les deux répertoires, pour nous, est fondé là-dessus. Il n'est pas fondé uniquement sur la compétence telle qu'elle est définie dans le concept de skill, mais elle est définie sur une combinatoire. Et nous, quand on parle de compétence, on est effectivement quelque part une vieille dame qui est sur des traditions un petit peu partagées malgré tout, le Beauterf et autres, sur une combinatoire de savoir, savoir-faire et d'autonomie. Et c'est ça qui va permettre pour nous de dire s'il y a vraiment une possibilité ou non de reconnaître que c'est à la fois ce qu'on appelle certifiant dans notre jargon et qualifiant, ou si c'est certifiant sans forcément qu'on ait derrière une qualification avec un niveau. Je ne sais pas, peut-être qu'à ce stade, je ne sais pas comment vous voulez organiser, mais s'il y a des questions, on peut faire de l'interactif si vous préférez. Que je pédale pas dans le yaourt pour tout de suite, quoi. Voilà. Donc c'est ça, si vous voulez, qui nous différencie de ce que vous allez entendre dans, je pense, le reste de la matinée. C'est-à-dire que nous, on est sur trois éléments à la fois, même si dans les analyses qu'on fait et dans les dossiers d'instruction que vous voyez sur notre site, cncp.gouv.fr, je pense que ça sera plus tard un coin de francecompétences.gouv.fr, c'est là-dessus. Nous, on est sur cette combinatoire, cette dynamique qui fait que, soit on va dire, c'est intéressant, c'est un signal sur le marché de l'emploi, mais un signal qui sera un signal durable, avec toute une approche métier, c'est-à-dire qu'une certification va correspondre à un métier ou, ça ce sera le, ça, ce sera le RNCP, ou à un élément intéressant pour exercer un métier, ou une compétence qui peut être, là on rentre effectivement dans le terme de compétence, qui peut être utilisée dans un certain nombre de métiers. Bon, exemple, par exemple, tout bête, les compétences linguistiques. Par contre, si on inscrit des compétences linguistiques à l'inventaire, on a un petit peu, au fur et à mesure du temps, affiné nos demandes en termes de qualité. Si on inscrit, ça veut dire qu'on va demander à ce qu'il y ait une écriture en compétences. Qu'est-ce que ça veut dire, une écriture en compétences ? Là, on n'est pas non plus sur l'approche compétente telle qu'on vous en a parlé. Une écriture en compétences, ça veut dire qu'on a la possibilité de comprendre et de décrire des activités et de décrire les compétences pour ces activités. Bon, on parle anglais. Bon, et comment on les évalue ? Puisque nous sommes dans une procédure qui est la certification professionnelle. Alors ça va être un petit peu compliqué entre la certification, les certificateurs de qualité de formation. Enfin, on se débrouillera, on sera tous dans la même boutique, on se débrouillera pour faire des documents de communication clairs. Mais ça veut dire que notre compétence, elle va être certifiée au sens où il y a derrière, je pense que je ne vous l'apprends pas, des procédures d'évaluation. On est dans la certification sur un processus et le résultat du processus. Donc vous voyez qu'on n'est pas tout à fait dans l'approche compétence telle qu'elle est prônée en ce moment, on est plutôt sur l'écriture et l'expression en compétence. Et là, effectivement, il y a beaucoup de travail à faire avec les universités, si elles le souhaitent, pour qu'un certain nombre de diplômes soient exprimés de manière un petit peu différente pour que justement cette approche compétence puisse être adoptée et exprimée et comprise par tout le monde. Moi, ce que je tiens à vous rappeler, c'est que je reviens à mes descripteurs de compétences et à mes niveaux, que ce soit au plan européen ou que ce soit en France, il n'y a pas d'antagonisme entre la partie universitaire et la partie professionnelle. Les descripteurs qu'on utilise au niveau européen sont des descripteurs qui sont parfaitement compatibles avec les descripteurs du processus de Bologne. Et nous, quand on travaille avec le ministère de l'enseignement supérieur, même si quelquefois c'est un petit peu frottement dur, quand on travaille avec les universités, même si quelquefois on a du mal à se faire comprendre, on respecte parfaitement les idées qui sont celles du processus de Bologne. Simplement, là où il y a un petit hiatus, c'est quand on demande aux universités de faire de la compensation, et que nous, dans le cadre de notre approche compétence, une compétence, elle est acquise, elle n'est pas acquise, mais elle n'est pas compensable avec quelque chose qui n'est pas proche à côté, quoi. Voilà, c'est le gros point, si vous voulez, dans l'approche en termes de compétences qu'on peut avoir avec l'enseignement supérieur classique, si je peux dire, c'est que quand vous allez inscrire ou demander à inscrire une certification soit au RNCP, soit à l'inventaire, on va vous dire, vous décrivez les compétences, bientôt on vous dira décrivez les savoirs associés, mais le décret n'est pas encore paru, et puis on vous dit, bon, vous avez toute une série de compétences, maintenant vous allez nous expliquer ce qui est évalué, comment vous évaluez ces compétences et vos critères. Vous n'êtes pas capable de nous le dire, ben nous on n'est pas capable de vous enregistrer. C'est la logique bête de la CNCP et qui sera reprise par la future commission de France Compétences pour la certification. Je veux dire, nous on est vraiment, on est dans une approche compétence, basique. Quand on entend cette compétence par cette combinatoire, après, à vous d'expliquer et à nous de vous aider pour distinguer correctement le niveau que vous voulez donner à votre certification. Donc vous voyez, c'est une approche qui est partagée au niveau européen et qui est en train d'évoluer vers quelque chose qu'on appelle les résultats d'apprentissage. En réalité, et c'est là qu'on se retrouve avec un certain nombre d'universités ou d'écoles d'ingé quand on discute sur ces questions-là, qu'on se retrouve aussi, c'est pas compliqué avec des certificateurs autres, c'est que maintenant on est en train de passer de ce qu'on appelle les compétences à des résultats d'apprentissage, les fameux learning outcomes. Alors là aussi, les langues sont absolument merveilleuses. Quand vous allez regarder sur un site suisse, une université genevoise, hein, il vous dit traduction de learning outcomes, compétences. Bon, c'est bon, on se retrouve. Pour nous, on est sur des compétences à tester. Donc, dans le cadre de notre futur système d'information, ce qu'on avait prévu, je dis ce qu'on avait prévu parce que bon, on a eu quelques problèmes de prestataire informatique, c'est que la fiche RNCP, elle allait plus s'appeler, comme elle était libellée, activité et capacité à tester, ça allait s'appeler résultat d'apprentissage. Résultat d'apprentissage à tester. Parce que de plus en plus, vous avez, au niveau international, et on parle de mobilité, vous avez cette écriture qui est en train de devenir une écriture partagée, avec une terminologie qui est une terminologie qui est de plus en plus utilisée au niveau international, et avec un certain nombre de travaux qui sont en train de se faire sur, ma foi, comment exprimer les qualifications en résultats d'apprentissage ou en compétences, mais au sens d'éléments qui sont à la fois combinatoires, comme je vous l'ai dit, et d'éléments qui sont contextualisés. Parce que pour nous, à la CNCP, et je pense que ce sera la même chose dans la future commission, on ne peut pas travailler sur une certification professionnelle, on ne peut pas travailler sur un niveau, si on n'a pas des éléments de contexte qui nous permettent de bien qualifier ce que sont les compétences à tester après une évaluation. Donc pour nous, la vieille dame qui va redevenir toute jeune avec la future France Compétences, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Ce qui va changer, c'est qu'effectivement, on va avoir davantage d'expression, disons, en termes d'assurance qualité de toute cette démarche au niveau des textes qui vont être pris. On va avoir davantage d'exigences en termes d'assurance qualité exprimée. Ce dont on parlait très très peu. C'est un petit peu la loi, ce que la loi nous a permis de faire, même si par ailleurs il y a un certain nombre de choses qui seront sûrement différentes. Mais cette approche compétence, pour nous, elle se traduira aussi par la capacité qu'aura la commission à travailler sur les blocs de compétences. Alors là, les blocs de compétences, ça va être quelque chose qui va être, à mon avis, un grand chantier qui ne va pas pouvoir déboucher sur des résultats tout de suite, parce que identifier puis découper, j'aime pas du tout le terme de découpage en bloc de compétences, moi ça me fait penser à un boucher, à la boucherie, c'est pas ça, la certification professionnelle c'est pas de la boucherie, c'est de l'ingénierie au contraire. Donc l'identification des blocs, la constitution de ces blocs va être un nouvel élément dans, je pense, les deux années qui viennent, pour une fois de plus re-questionner l'ingénierie des certifications et ensuite de la formation. Donc, effectivement, il va falloir qu'on travaille avec nos partenaires pour que les blocs de compétences ne soient pas uniquement des petites, ça a son importance pour l'emploi, mais des compétences au sens skills, et qu'on garde cette signification de ce que veut dire la compétence et le bloc de compétences. Parce que exercer un métier avec uniquement un type de compétence, nous, on n'y croit guère. Ça peut être extrêmement utile, je ne conteste absolument pas, et Valérie vous l'expliquera tout à l'heure, je ne conteste absolument pas qu'une compétence de type skill puisse être indispensable pour trouver un travail. La question n'est pas là du tout. La question, c'est si on continue à se situer dans l'hypothèse d'un métier, dans l'hypothèse de, d'une autre loi de l'ANI qui n'a pas été modifiée par la loi, c'est-à-dire que les gens ont le droit, dans le cadre de leur formation tout au long de la vie, de gagner un niveau. C'est quelque chose qui n'a pas du tout été remis en cause. C'est sur ce type d'objets, des blocs de compétences, qui ont un sens, qui peuvent ensuite être faire l'objet de passerelles, c'est ce que va nous permettre la loi, de manière un petit peu plus autoritaire que ce qu'on faisait jusqu'à présent, parce que jusqu'à présent, on était un petit peu dans l'incantation, on était dans, ah ben tenez, cette certification, là, elle pourrait bien se causer avec celle-ci, on dit, oh ouais, c'est intéressant, tiens, cause toujours, tu m'intéresses. Là, ce sera plus cause toujours, tu m'intéresses, dans le cadre de la loi. Ce sera, vous ne voulez pas causer, eh ben, on sort les certifications de répertoire, allez discuter, vous reviendrez quand vous serez d'accord. Enfin, je vous le fais extrêmement cash, mais en gros, c'est ce que dit la loi. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose, c'est en ça, je pense que la loi, la nouvelle approche compétences va beaucoup impacter les travaux de la future commission, parce que là, on va avoir toute cette approche, d'ailleurs, avec on ne va pas, je pense, faire ça de manière... j'arrive. On fera ça, de toute façon, de manière partenariale, mais je pense que c'est ça qui va aussi... pour le coup, pas mal impacté les travaux que faisait que va faire la future commission au sein de France Compétences, madame.
Bonjour. Où est les certificateurs? J'ai plusieurs questions en fait. La première portant, merci. Je vais pas trop parler au micro. La première portant sur la construction d'un titre RNCP existant à ce jour en bloc de compétences. Donc, effectivement, on va le découper, parce qu'on n'a pas trop le choix, le terme que vous avez utilisé. On le découpe en bloc de compétences. La question que je me pose, c'est en termes de sanctions. Aujourd'hui, si j'ai tout bien compris, on doit attester un bloc de compétences en supposant qu'un titre soit découpé en 4 blocs. Est-ce qu'il est possible, est-ce que la validation partielle pourra exister? Comment va se... vous voyez?
La validation partielle de quoi? Vous avez déjà la possibilité, de, par le cadre de la VAE, par exemple, de donner, le mot n'est pas le bon, la personne peut avoir une validation partielle. Voilà, la notion de validation partielle, elle n'est pas remise en cause, pas plus que la VAE. Mais ça veut dire que vous ne pouvez attester que du bloc qui a été obtenu par la personne qui l'a présenté. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que normalement, tout bloc de compétences fait l'objet d'une évaluation. Et fait l'objet d'un parchemin, qui n'est bien sûr pas le même parchemin que celui de la certification totale. Donc, de facto, c'est déjà une validation partielle. Mais la personne, elle ne peut se prévaloir que de ce qu'elle a reçu, et pas d'autre chose.
Donc, pour un titre RNCP, découpé en 4 blocs de compétences, il se peut qu'un candidat, un stagiaire, puisse avoir 3 attestations de compétences et il n'arrive pas à l'obtention du titre complet.
Ah ben non, c'est la définition même de l'ingénierie, de la certification. Si votre certification elle est identifiée en 4 blocs et que vous avez décidé que pour avoir la certification, il fallait les 4 blocs, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas l'avoir en total avec 3. Alors, on a le cas, par exemple, des écoles de management, où on a la possibilité de ne pas avoir tous les blocs, pour une raison très simple, c'est que les identifications qui ont été faites jusqu'à présent, ça correspond au tronc commun et aux options. Alors, c'est clair qu'il ne faut pas avoir, chaque option étant elle-même identifiée un ou deux blocs, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir tous les blocs qui figurent sur la fiche RNCP. Mais par contre, ce qui est indispensable, c'est que systématiquement, il soit très clairement indiqué pour avoir l'intégralité de la certification, voilà ce qu'il faut que vous ayez. Sinon, on ne peut pas s'en sortir. Et pour le candidat qui est en formation continue, parce que là, on est surtout sur la formation c'est continue, hein, on est bien d'accord, et pour le candidat à la formation continue qui veut avoir tout son bloc, et pour les personnes qui passent par la VAE, parce que la VAE continue, et on espère que la VAE va profiter de cette identification en bloc, pour que les choses soient encore plus claires, et si... Dans le cadre de la VAE, vous avez prévu en tant que certificateur quelque chose de différent. Là, il faut que ce soit bien explicité. C'est-à-dire, pour la VAE, il faudra avoir obligatoirement ce bloc-là. Et ensuite, voilà, ça c'est après, on rentre dans l'ingénierie de la construction de la certification.
Ok, merci.
Oui. Mais ils le sont, il me semble qu'ils le sont déjà, de mémoire, ils le sont déjà. Mais le bloc, ce que je vous ai dit, c'est que le bloc, il faudra que ce soit des compétences au sens que j'ai indiqué, c'est-à-dire la combinaison de savoir, savoir-faire et compétences. Hein. On appelle ça des blocs de compétences, et pas uniquement, je valide le fait que, je sais pas moi, il s'est chauffé le four à 350 degrés et pas 380. Enfin bon, je dis n'importe quoi. Hein, mais voilà. Il faut que ça ait un sens. Il faut que ça ait un sens, que c'est un sens par rapport à l'exercice du métier...
Bonjour. Concernant l'accès à la CNCP, avec cette réforme, la FEST devient dispositif de formation. Est-ce que les entreprises vont être en capacité d'inscrire des certifications à la CNCP ? Vu qu'elles portent le dispositif des tuteurs depuis quelques années, que la FEST devient méthode de formation reconnue, est-ce qu'elles vont avoir accès aujourd'hui à l'inscription à la CNCP ? En tant qu'entreprise.
Aujourd'hui, non. Demain, peut-être. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Les textes sont en train de s'écrire.
D'accord. Les
textes sont en train de s'écrire et ils sont pas complètement finalisés. Donc, c'est vrai que ce qui avait été jusqu'à présent, la doctrine de la CNCP, je ne sais pas ce que sera la doctrine de la commission demain. C'est il faut que ce ne soit pas une certification maison. C'est qu'il faut que voilà, c'est ça le et parce que on ne veut pas de gens qui ont un niveau mais qui en réalité sont prisonniers de leur boîte. On est là pour se parler très très cash. Hein. Donc on a eu des problèmes par exemple avec pour enregistrer une certification, c'était Météo France parce que Météo France, bon, c'était une Météo France, mais comme ils forment énormément de gens de pays étrangers. On a joué là-dessus. Donc là, ça fera partie, je pense, des discussions qu'il faudra qu'on ait au sein de France Compétences pour voir si, qu'on forme quelqu'un en situation de travail, que ce soit certifiant, ce n'est pas un problème. La question sera, est-ce que ce papier que j'ai pourra me permettre de circuler sur le marché de l'emploi ? Par exemple, je vous le fais très, très, très schématique là aussi, dans mon esprit, mais enfin là c'est pareil, c'est des discussions qu'il faut qu'on ait, puisque la FES pour l'instant n'existait pas. Si Renault et Peugeot forment ensemble et ont une certification, mais ce sera Renault et Peugeot quoi. C'est-à-dire que les gens ils pourront circuler. L'idée c'est qu'une certification professionnelle, et ça je pense que ça n'a pas du tout été laissé de côté par la loi, une certification professionnelle ça doit vous permettre de circuler sur le marché de l'emploi. Soit par la reconnaissance d'un niveau, soit dans le cadre de l'inventaire, une certification qui vous permet d'être sur un certain nombre de métiers ou un certain nombre de branches ou peu importe, de circuler sur le marché d'emploi. Et cette idée-là, elle n'a pas du tout été abandonnée par la loi. Donc là, c'est un chantier. Je ne peux pas vous répondre plus que ce que je peux dire.
Mais ça amène quand même la question des CQP. Parce que les CQP, aujourd'hui, ils ne sont pas reconnus d'un niveau, même s'ils ont une équivalence de niveau, et ne permettent pas une circulation sur l'ensemble des métiers, ni en termes de reconnaissance de compétences, qui sont parfois utilisées sur un CQP, ça ne servira pas dans un autre métier.
Et oui, non, mais ça va changer.
Donc,
ça va changer. Déjà...
Vous direz que les CQP vont disparaître ?
Oui, déjà, on avait dans une ou deux branches, de mémoire, c'est les services à la personne, on a eu un CQP... qui a été transformé en titre. Donc déjà, la possibilité existait, c'était par la loi que les CQP, pour des histoires d'engueulades, alors là, tout à fait historiques, qui datent d'une dizaine d'années au moins, de par la loi, les CQP, ils n'avaient pas de niveau et c'était comme ça. Dans le cadre de la nouvelle loi, Stéphane n'a pas eu le temps de vous le dire, mais les CQP, ils auront le choix, s'ils veulent exister en tant que CQP, soit d'être à l'inventaire, sans niveau, soit d'être au RNCP, et dans ce cas-là, ils seront soumis au même type de prérequis que les autres. Donc pour l'instant, effectivement, c'était aussi les branches qui voulaient... On a eu aussi le développement des CQPI qui ont permis d'aller d'une branche à une autre. Hein. Mais pour l'instant, les CQP, effectivement, c'était quelque chose qui était réservé, effectivement, on pouvait bouger, mais au sein de la branche, entre deux branches. Ça devrait changer.
Merci.
Je vous en prie.
Je ne sais pas, c'est peut-être j'ai fait une lecture erronée, en fait, de la réforme européenne, parce que je pense que je reviendrai sur cette question de la compétence au niveau méta, c'est-à-dire qui dépasse les localités, qui dépasse les régions. Ce que j'entends que l'Europe, dans le contrat ou dans le cadre de certification, travaille ou exige ou invite à travailler sur les compétences. Et là, ce que j'entends, c'est-à-dire, c'est comme il y a quelque chose de l'ordre du local. On revient à l'activité de la profession. Pour moi, maintenant, quand je vais faire l'ingénierie de la formation, c'est ça la question, avant d'arriver à la certification et l'évaluation, à partir de quelle entrée est-ce que je fais l'ingénierie à travers la compétence, là c'est le cadre européen, ou est-ce que je dois intégrer ou construire la formation à partir de l'activité d'une profession ? Je ne sais pas si je suis clair.
Déjà, vous parlez de quelle réforme européenne ? Parce qu'il y en a tellement, il faudrait qu'on s'entende sur la réforme dont vous parlez. Vous parlez du processus de Bologne, vous parlez de quoi ? D'upskilling pathways, vous parlez de toutes les réformes de skills agenda, vous parlez de... Parce que c'est... L'Europe part un peu dans tous les sens en ce moment, donc...
Si vous voulez, je partirai de deux, c'est-à-dire de Bologne et de Lisbonne, sans revenir après, sur la question de compétences. C'est-à-dire que, dans ma lecture, hein, peut-être que je... C'est-à-dire que l'Europe, c'est-à-dire dans la réforme, le CCEL de l'enseignement supérieur, hein, Bac plus 3, etc. C'est-à-dire, il y a une exigence, c'est-à-dire, cette fois-ci, d'ouvrir au marché européen. Donc, ce qui devient fondamental, c'est la question de la compétence, qui transcende, c'est-à-dire, la région ou l'activité régionale. C'est-à-dire, on n'est plus, dans ma lecture, hein, on n'est plus sur l'activité professionnelle qui est locale, mais on est sur une compétence que, cette fois-ci, un étudiant qui arrive d'un autre pays... c'est-à-dire européen, c'est-à-dire il peut demander cette formation sur une compétence qu'il peut exercer dans un autre endroit. C'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire voyager, la flexibilité du marché. Donc moi, c'est-à-dire que, je ne sais pas si je suis clair, c'est ma lecture que je fais des textes. Donc est-ce qu'on fait une entrée par la compétence, et à un certain moment, parce que le terme revient sur la compétence, il faut un peu aussi clarifier le terme de compétence, qu'est-ce qu'on met derrière, parce que c'est... Où est-ce qu'on entre par la professionnalisation ?
On entre par les learning outcomes. Voilà. Pour être clair, on entre par les learning outcomes. Alors, soit ils sont attestés quand on est dans la formation professionnelle, soit ils sont attendus, espérés, dans le cadre du processus de Bologne. Voilà par où on rentre. Donc, et les résultats d'apprentissage, ils peuvent exprimer beaucoup de choses. Par ailleurs, quand on est dans le monde universitaire, par exemple, sur les ingénieurs, c'est pas très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué. Je veux dire, on a des ingénieurs de niveau 3 européens, on a des ingénieurs de grade de master, mais au niveau européen, les choses se sont organisées. Donc la seule réponse que je peux vous donner, c'est vous rentrer par les résultats d'apprentissage qui de toute façon sont maintenant communs au monde de l'enseignement supérieur, au monde de la formation professionnelle. Et personne n'a demandé à ce que master soit réécrit pour s'adapter au marché local. Simplement, quand on est enregistré dans un cadre national, il faut montrer ce qu'on est capable de faire avec les diplômés du master, plutôt est-ce que les diplômés du master sont capables de faire sur le marché de l'emploi national. Voilà, si je peux répondre comme ça.
Bonjour, Monique Rolbert, faculté d'économie et de gestion. Donc, dans le cadre des accréditations des diplômes que nous avons mis en place à la rentrée 2018, nous avons réfléchi à une approche par compétences, et donc actuellement nos diplômes sont décrits, du moins sur le papier, par cette approche. Il n'en reste pas moins qu'actuellement on est confronté à la difficulté de l'évaluation et en particulier de la compensation. Donc on n'a pas de solution à cette question-là. Je vois que vous n'en avez pas non plus. Et qu'est-ce qu'on va devenir?
C'est très très clair. C'est pour ça que j'ai préféré le dire tout de go. Hein. C'est que c'est la grosse différence entre l'approche, d'écriture en compétences telle qu'on a pour l'enregistrement au RNCP et qu'on aura pour l'enregistrement à l'inventaire. Et là, c'est effectivement une question qui dépend en grande partie de la liberté que peut vous donner ou pas le ministère de l'Enseignement supérieur. C'est-à-dire, moi, quand je lis dans des circulaires, vous opérerez la compensation entre machin et machin, je pleure. Enfin, je pleure pas, je crie. Mais là vraiment, c'est le gros souci. Et c'est pour ça aussi que il y a énormément de certifications qui sont de bonne qualité, qui sont faites par les universités, je ne dis pas ça pour vous faire plaisir, mais qui se font retoquer, les DU, il y en a beaucoup qui se font retoquer, pour une raison très simple, c'est qu'elles sont écrites selon les circulaires du ministère de l'Enseignement supérieur, et que c'est, nous on dit, c'est pas écrit en compétences, c'est formatif, enfin bon, voilà quoi. Et qu'il faut effectivement retourner complètement le raisonnement, si je peux dire, quand on vient chez nous, sur demande. Là, je ne sais pas, c'est quelque chose qui est posé entre nous et le ministère de l'Enseignement supérieur, et c'est quelque chose qui aurait pu être réglé dans le cadre de la loi. Enfin, moi, je vous dis mon sentiment personnel, qui ne l'a pas été. Et c'est un petit peu dommage pour les services de formation continue, parce qu'il y a des tas de choses à développer qui sont difficiles à développer. Je le sais, hein, mais...
D'accord. J'avais une autre question concernant l'enregistrement au répertoire. Donc, on nous annonce des fiches nationales pour les masters.
A master chain. Yes.
Bon, et la difficulté quand même, c'est que on a des spécificités locales et que ces fiches nationales décrivent de manière lointaine, on va dire, les réalités locales. Est-ce qu'on va avoir des fiches complémentaires? Comment ça va se passer? Parce que déjà au niveau des licences, c'est pas terrible, donc voilà.
Eh bien non, il va falloir que vous fassiez avec. C'est tout ce que je peux vous dire. Alors je ne sais pas comment nous, petite commission, d'une manière ou d'une autre, on pourra vous aider. Alors peut-être que là aussi, pour essayer, je ne sais pas, j'essaie de me projeter dans France Compétences, on pourra essayer peut-être de monter un certain nombre de choses, mais ça va être vraiment du dialogue entre les ex-OPCA, les OPCO, et puis les universités. Non, c'est un véritable boulet en termes concurrentiels qui est constitué. Alors là, c'est l'objet, c'était l'objet de la réforme. Les lois sont votées, je n'ai pas à les contester. Le résultat, c'est que ça va se traduire effectivement par, pour vous, la nécessité de bien développer votre offre en termes de compétences, en termes de valorisation sur ce mode-là, sur vos portails d'université, et puis de négocier avec les OPCO. Si on peut, nous, quelque part, être facilitateur plus tard, je ne sais pas, on verra comment on peut faire. Mais là, ça va être plutôt de la négociation au niveau régional et sur les parcours, sachant que les parcours ne font pas partie juridiquement, et ça n'a pas été modifié par la dernière loi, de ce qui est inscrit au RNCP, c'est-à-dire qu'un parcours ne peut pas être considéré comme un bloc de compétences. En droit. Donc là, ça va faire partie. Vous allez vraiment vous retrouver, je pense, avec. Je pense que la DGCIP va vous outiller, va vous aider, mais avec de la négociation vis-à-vis des OPCO pour montrer effectivement ce qui est, en termes de formation continue, finançable ou pas. Le master, en tant que master, est éligible au CPF, on est d'accord. Bon, mais ce n'est pas le master qui intéresse, très souvent, dans le cadre de la formation professionnelle. C'est pas l'intégralité du diplôme, on est bien d'accord.
Mais le master n'est pas inscrit, les blocs le sont.
Ben les blocs, il n'y en a pas pour l'instant.
C'est tenté qu'on en ait.
Oui, mais les blocs, ce seront des blocs. Là, il faut que je me suis gardée, pour être de bonne humeur aujourd'hui, je me suis gardée de regarder les blocs qui ont été faits pour les licences générales. Bon. Mais ça va vous correspondre à des UE, quoi. Non, ben j'espère. À voir, à voir. De toute façon, pour les masters, pour l'instant, les masters que j'ai vus n'ont pas de bloc. Les fiches nationales n'ont pas de bloc pour l'instant. La blocisation, si je puis dire, parce que c'est un terme qu'on emploie avec la DGCIP, on bloquise. La blocisation a commencé sur les licences générales.
Oui. Oui. Guylaine Rouillet, AGFOS PME, j'avais une question avec l'approche compte personnel formation, c'est-à-dire comment ça va évoluer finalement, la globalité, est-ce qu'il y a une évolution forte des titres et de ce qu'il y a à l'inventaire par rapport au compte personnel formation? Quelles évolutions vous voyez
Non, ça reste éligible, hein, de toute façon. Donc, ce qui va évoluer, enfin, l'éligibilité reste.
Uniquement ou il y a d'autres choses qui seront éligibles au compte personnel
Alors là, vous me posez une colle. Je crois qu'il y aura d'autres éléments qui seront éligibles au compte personnel de formation, parce qu'il me semble qu'il y a un certain nombre de... Il y a un certain nombre d'éléments qui sont de droit au CPF. C'est au fur et à mesure des textes. Le permis, il y rentrait. Mais je pense que sinon, on est sur essentiellement le RNCP et puis l'inventaire. Je me demande si le permis, ils l'ont pas mis de droit à l'inventaire. J'ai vu un truc comme ça.
Merci.
Bonjour, Alain Valls, délégation académique à la formation professionnelle initiale et continue. Vous avez dit avec bonheur votre aversion du découpage en matière de création de blocs de compétences. Est-ce que jusqu'à présent, finalement, nombre de titres et de diplômes d'éducation nationale ont été découpés, parfois un peu rapidement, un peu sauvagement? Est-ce que le CNCP a les moyens de s'opposer à ces découpages, souvent malheureux, hein, qui ne correspondent pas du tout à la définition très heureuse également que vous avez donnée des compétences, hein, et quels moyens aurait le CNCP pour faire valoir toutes les belles valeurs que vous nous avez communiquées?
Ah ben là, tant qu'on a la certification de droit pure et dure... Alors après, c'est pareil. Là, on a une certification de droit pure et dure jusqu'au 31 décembre 2019. Bon. On me dit, j'ai découpé, parce que là, effectivement, j'ai découpé le beau bloc de compétences mathématiques, il me reste là. Dans le cadre de la future loi, enfin de la future mise en œuvre de la loi, on a plus d'enregistrement de droit. Par contre, on a la substitution en termes d'assurance qualité sur les certifications. Mais sur les blocs, pour l'instant, au niveau les décrets ne sont pas encore sortis, la pratique ne s'est pas encore mise en œuvre, mais je pense surtout que c'est la réalité qui fera évoluer les choses. C'est-à-dire, s'il n'y a pas grand monde qui se présente au bloc mathématique ou si ça perd du sens, et s'il y a d'autres certifications qui ont plus de succès, enfin, j'espère que l'éducation nationale s'adaptera. Mais pour l'instant, nous, on ne peut rien faire.
Je ne parle pas seulement de l'éducation nationale. Quand on est dans une dynamique, le terme est mal choisi, hein, de découpage pur et dur, Hein, finalement, on découpe la totalité d'un parcours en unité dont la somme des heures est égale à la totalité du parcours. On peut penser que pour un bloc de compétences, et en pariant sur cette valeur de l'autonomie que vous nous avez communiquée, ce bloc de compétences devrait être nécessairement hypertrophié par rapport à un découpage strict, notamment en heures d'apprentissage, ou un découpage strict dont la somme serait égale à la totalité du parcours. La totalité du parcours donne, parce que l'apprenant visite d'autres unités d'apprentissage, finalement, une autonomie supérieure, des savoir-faire finalement ajoutés, qui sont nécessaires à la construction d'une efficacité professionnelle. C'est pour ça que ce découpage est toujours très malheureux. Le CNCP devrait pouvoir insister. C'est décisif.
On aura beaucoup plus de marge de manœuvre. Alors, déjà, sur l'enregistrement de droit, on n'avait pas de marge de manœuvre. Bon. Mais vous avez... ça a été très, très varié. Par exemple, il y a certaines l'Université de Bordeaux, pour ne pas la citer, qui avait fait des identifications qui n'étaient pas des identifications totales. C'était des choses un petit peu... On a vu des choses un petit peu différentes. Sur l'enregistrement, sur demande, là, on avait notre mot à dire. Et on l'a toujours, et je pense que, de toute façon, dans le cadre futur, on l'aura toujours. Ce qu'on va essayer de faire, c'est effectivement d'éviter d'avoir... j'ai tant d'heures... Et ça va me faire tant d'unités et tant de blocs de compétences. Ça, non. Et c'est effectivement, c'est un petit peu l'effet pervers du financement par le CPF des blocs. Donc là, on va quand même essayer de donner du sens, comme on le faisait, comme on essayait de le faire avec l'enregistrement sur demande. Merci.
Encore une question. Denis Riro, rectorat, pour poursuivre, en fait, juste, on a bien d'accord qu'il n'y a pas de légitimité, effectivement, à découper des blocs de compétences. D'un côté, enseignement général, ou unité générale, et unité professionnelle, notamment par rapport à la définition telle que vous la portez. Il n'y a pas de légitimité. Donc, ça veut dire que vous comptez, effectivement, sur le fait qu'il n'y aura pas d'inscription de droit pour faire en sorte que l'éducation nationale renouvelle son approche et propose des blocs qui soient réellement des blocs de compétences mêlant enseignement général et enseignement professionnel notamment.
La légitimité, c'est celle des décrets et des arrêtés. Donc pour l'instant, il y avait une légitimité au sens juridique. Après, tout est à construire. Donc je pense qu'il y a eu une espèce de première approche assez rapide de la part du ministère de l'Éducation. Je ne sais pas trop ce que ça va devenir et si France Compétences aura la possibilité de dire non, je ne veux pas de ce bloc-là. De ce que j'ai vu des textes, c'est un peu mal barré, pour parler vulgairement. Par contre, c'est au niveau des discussions, je pense peut-être des CPC revus, que ce type de discussion pourrait être porté. Et là, la loi porte quand même des évolutions sur l'enregistrement de droit, c'est-à-dire que vous avez vu les projets qui sont de revitalisation quelque part de CPC et puis de clause de revoyure sur les diplômes. Donc je pense que c'est plus là, je compte plus sur une dynamique où cette légitimité, comme vous l'exprimez, où illégitimité pourrait s'exprimer, que sur l'action à court terme de France Compétences et de la Commission. Sincèrement, on est là pour se parler correct, sans langue de bois.
Très rapidement, on est bien, si on se projette, on est dans des logiques effectivement combinatoires, on est dans des logiques de passerelles entre certificateurs. Ouais. C'est ça, réellement, vers là où on va, effectivement. Et, d'accord, merci.
La dernière, peut-être, mais vraiment la dernière question.
Bonjour, Éric Terrasse de la Chambre de métiers et de l'artisanat régional. Est-ce que vous pourriez repréciser un peu le calendrier pour les évolutions de ces certifications, celles qui existent déjà au RNCP ou à l'inventaire, et celles qui vont être créées à partir de 2019? Est-ce que les premières sont gardées? Est-ce qu'il faudra les remodifier? Et à partir de quelle date cela devra être fait.
C'est un peu difficile pour moi de vous répondre aujourd'hui parce qu'on a une commission plénière à la fin de la semaine qui va proposer au ministre un arrêté pour prolonger un certain nombre de certifications. Alors je crois que c'est un an. Après, ce que va faire le ministre, ça c'est autre chose, parce que comme pour tout changement, de système, on a une période transitoire. Donc nous, ce qu'on va proposer, après on verra ce que décide le ministre, parce que c'est quand même un arrêté du ministre, c'est de prolonger toutes les inscriptions sur demande d'une année, de manière à pas faire tomber un certain nombre de certifications et de droits qui sont attachés au RNCP. Et on va faire pareil pour l'inventaire. Après, ce que le ministre va décider, ça va être autre chose. Là, on a une vraie difficulté juridique. Il faut qu'il y ait une discussion entre la DGEFP et le Conseil d'État. C'est sur les dossiers qui ont été déposés, qui sont en cours d'enregistrement, avec des critères qui changent et qui vont faire l'objet d'un décret là qui va paraître. Et là, toute cette période transitoire, il faut vraiment qu'elle soit discutée. Ça, c'est un vrai problème juridique, quoi. Et ça dépasse la CNCP. Donc, en principe, nous, ce qu'on proposerait, c'est de prolonger d'un an. Après, ce que fera le ministre, ça, c'est autre chose.
Oui, bonjour. Fabienne Schaeffer, Avignon Université. Moi, je voulais juste revenir sur la mise en situation professionnelle de travail et puis les trois compétences à associer dans ce que vous avez dit, savoir, savoir-faire et autonomie. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrire sur l'évaluation de la mise en situation de travail pour justement...
C'est bientôt, vous faites la transition, là.
Parce que, comment on fait si les conditions d'exercice de la situation professionnelle ne sont pas bienveillantes, si on veut utiliser un mot à la mode, ou... dans le respect de la réglementation du droit du travail et de la formation.
Vous faites la transition là avec la séquence suivante.
Parfait.
Donc,
merci. Merci pour la transition. Merci Madame Bouquet pour cet échange très concret.